Voilà. Alors, j'avais donné un peu plus de 12 minutes à Patrick Pellata en disant qu'il allait être harcelé par plusieurs orateurs, donc il faut lui laisser du temps pour répondre.
Bonjour. D'abord, je voudrais rassurer Philippe Hersman. Le véhicule électrique, si toute chose restait égale par ailleurs, ça n'a pas de sens. On est d'accord. Mais le monde bouge. Le monde fait face à une crise pétrolière, fait face à une crise climatique. Et puis, il y a eu un changement technologique assez important qui est la batterie lithium-ion. C'est arrivé dans les laboratoires à la fin des années 80. Nissan a eu la chance de commencer à travailler dessus dès le début des années 90. J'ai visité des installations qui étaient déjà quasi industrielles au tout début 2000. Et cette technologie, je reviendrai dessus, a un potentiel d'évolution devant elle qui est encore énorme. Quand on met ces trois choses-là ensemble, c'est là que le monde peut changer complètement. Le business model, la pratique, la technologie, les industries qui vont avec. Le dernier élément que je veux dire en introduction, il ne faut pas sous-estimer la capacité à optimiser de systèmes industriels en très vive concurrence. Il y a aujourd'hui probablement pas loin d'un demi-million d'ingénieurs dans le monde qui travaillent à optimiser les automobiles, mais le potentiel, en particulier vis-à-vis de ce problème un peu récent des émissions CO2, plafonne, on voit encore peut-être 15, 20%, peut-être 30%, en comptant des hybridations abordables. Or, ce dont on a besoin, c'est plus que ça. Et sur un système qui est complètement nouveau, la capacité à optimiser est évidemment très très largement supérieure à ce qu'elle est sur un système qui existe déjà depuis un siècle. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette capacité d'optimisation, mais j'espère qu'on pourra y revenir dans le débat. Je voudrais revenir donc très vite sur ces deux crises, sans lesquelles, encore une fois, rien ne se passerait. Je voudrais ensuite parler un petit peu des clients, c'est quand même eux qui vont faire vivre ou pas cette affaire-là. Du business model qui va avec, un petit peu de la technologie, le rôle des États, puisque deux des bénéfices dont je viens de parler, la réduction de la facture pétrolière et la réduction des émissions de CO2, sont des bénéfices publics. Il faut que le bénéfice soit socialisé. Le seul qui peut socialiser un bénéfice comme ça, c'est l'État. Et qu'est-ce que ça donne, ça, enfin, comme perspective de marché, surtout avec quels paramètres ces marchés peuvent monter ou descendre en fonction de ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Et puis enfin, ce que fait Renault de particulier. Alors la crise énergétique d'abord, il faut quand même se rappeler qu'on est en pleine crise, avec des productions manufacturières qui ont baissé de 10 à 20% presque partout dans le monde, et on est avec un pétrole qui oscille entre 65 et 85 dollars le baril. Il est monté à 130, 140 l'année dernière. Quand on travaille avec l'Agence internationale de l'énergie, on constate que les investissements qui sont faits actuellement dans l'exploitation pétrolière ne correspondent pas à la demande du business as usual. Conséquence, soit il n'y aura pas de business as usual, on ne peut pas encore l'écarter, soit on sort de la crise, même cas un cas, et dans ce cas-là, le prix du pétrole va monter, il faut chercher des solutions. Et donc il y aura une pression forte sur les technologies économes en pétrole. Le deuxième élément, c'est évidemment la crise écologique. Il existe aujourd'hui, Copenhague ne s'est pas mis d'accord sur grand-chose, mais s'est quand même mis d'accord pour dire qu'il ne faut pas que la température monte de plus de 2 degrés. Les scientifiques disent 2 degrés, ça fait 450 ppm. Il y a pour l'instant un seul déploiement complet qui a été fait de ce que veut dire 450 ppm, celui qui a été fait par l'Agence internationale de l'énergie encore. Il dit beaucoup de choses sur les gains qu'il faut faire pour les voitures, et il dit en particulier les voitures, en 2030, il faut qu'elles fassent moitié moins d'émissions CO2 que ce qu'elles font aujourd'hui. Avec les technologies actuelles, on ne sait pas comment on fait. On sait faire 15, on sait faire 20, on sait sûrement faire 30 en commençant à pas mal faire monter le prix, mais on ne fera pas moins 50%. Et ça suppose que dans le scénario de l'Agence internationale de l'énergie, il se passe bien ce qu'ils ont prévu qui doit se passer en nucléaire. Il y a de chauds partisans à côté de moi, mais qu'il se passe aussi ce qui doit se passer dans le bâtiment, qui doit se passer dans l'évolution des pratiques, etc. Si l'automobile a les moyens techniques d'aller plus loin, je pense que ce ne sera pas inutile. Ensuite, il y a la part de la voiture dans ça. Donc les chiffres ont déjà été dit, ce n'est pas exactement les mêmes, mais c'est un quart de la consommation de pétrole dans le monde. C'est 12% des émissions de CO2 et c'est entre un cinquième et un quart de l'augmentation des émissions d'ici 2030. Et c'est là que le monde change. L'automobile ne peut pas rester comme elle a été. Ou alors on dit il n'y a pas de problème d'émissions CO2, on ne s'en occupe pas, on attend un peu. Mais si on considère qu'il y a un problème, alors l'automobile fait partie de la solution et ce n'est pas une petite amélioration qu'il faut faire, c'est une rupture. Et justement, l'industrie automobile, l'automobile permet une rupture. Alors là, je reprends des données qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que j'ai entendues tout à l'heure. Elles ne sont pas très éloignées. Une Mégane diesel, qui est un petit peu ce qu'on fait de mieux aujourd'hui dans une voiture moyenne où il y a toute la sécurité, le confort, etc., avec un moteur diesel très moderne, fait 136 grammes du puits à la roue. Elle fait 117 grammes dans les étiquettes que vous voyez, mais ça, c'est du réservoir à la roue. Et évidemment, il faut compter ça du puits à la roue. Les voitures essence qu'il y a dans le monde, en ce moment, c'est plutôt autour de 200. Et aux États-Unis, c'est plutôt autour de 300. Une Prius, qui est ce qui se fait de mieux en technologie classique essence, fait 105 grammes. Une centrale à charbon classique, normale, derrière un véhicule électrique, fait 128 grammes. Alors ça peut vous surprendre, n'oubliez pas une chose toute simple, c'est qu'un moteur thermique, ça a un rendement un peu supérieur à 20%, alors qu'un moteur électrique, évidemment, ça a un rendement qui est de l'ordre de 90%. Et cet élément-là, il est évidemment fondamental, c'est ce qui explique que même en Chine, un véhicule électrique peut être une solution. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement chinois est en train de mettre autant de recherche et développement et d'aide sur les batteries au lithium-ion. Évidemment, en France, comme ça a été dit tout à l'heure, si on prend le mix français, on est à 12 grammes. Si on prend le mix français de nuit, qui sera 90% de l'électricité consommée par les voitures, on est à 3 ou 4 grammes de CO2. Donc là, on est bien en train de parler d'une rupture. On n'est pas en train de parler d'une petite évolution. Cette rupture, elle correspond bien aux deux challenges dont je parlais tout à l'heure, qui sont les deux crises auxquelles nous sommes en train de faire face. Alors, il y a des variantes, hein. Au Danemark, par exemple, ils ont déjà 25% de leur énergie qui est éolienne. Et pourquoi le Danemark subventionne le véhicule électrique avec une fiscalité, comme ça a été dit, particulièrement attractive? Ben c'est parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser l'électricité de nuit produite par les centrales éoliennes. Et ça fait donc partie, dans leur réflexion, de l'ensemble du système. On voit déjà que le système, là, il est sorti de la voiture. On est rentré dans le système de production d'énergie d'un pays. C'est un peu provocateur, ça, mais voilà en fait ce qu'on est en train de comparer. 100 millions d'années, on extrait, on transporte, on raffine, on transporte, on met dans la voiture. Et effectivement, on a une très grande densité. S'il n'y avait pas de crise du pétrole, de l'approvisionnement du pétrole, et s'il n'y avait pas de crise écologique, on pourrait continuer comme ça, peut-être pas indéfiniment, mais encore longtemps. C'est quoi l'alternative à côté? Il y a un seul chiffre qui est intéressant ici, c'est que pour alimenter une voiture, une Mégane, sur 15 000 km par an, ce que font les Européens moyens, il faut 15 mètres carrés de panneaux solaires avec les technologies d'aujourd'hui, en moyenne, et avec ça, on roule pendant une année. Dans un pays méditerranéen, le sud de la France, par exemple. Gardez ça en tête, parce que c'est peut-être un doux rêve, mais quelquefois, la physique de base aide à rêver, et l'économie peut mettre un certain temps à rejoindre le rêve, mais quelquefois aussi, elle rejoint le rêve plus vite que ce qu'on avait pu imaginer. Les clients potentiels. Alors là, comme le disait tout à l'heure Philippe Hirschman, ce n'est pas la panacée universelle, le véhicule électrique. Ça, on est bien d'accord. Ça s'étendra probablement un jour, mais très modestement, au départ, ça va démarrer avec une population qui n'est pas l'ensemble des voitures. Parce que quand on dit la voiture, on pense tous à la voiture qui sait tout faire, mais la voiture, en fait, elle a des usages qui sont segmentés. À commencer par ce dont je vais vous parler maintenant, c'est-à-dire les gens qui font essentiellement, voire exclusivement du commuting. Alors quelques statistiques qui sont issues des enquêtes déplacement européennes. La situation en Chine, par exemple, est pire que ça. 87% des automobilistes font moins de 60 km par jour. Bon, et ils peuvent faire plus pendant le week-end ou pendant les vacances. Alors maintenant, regardons les voitures. 32% des voitures dans le segment des petites voitures compactes ne font jamais, plus de 150 km, qui est précisément l'autonomie d'une batterie lithium-ion d'aujourd'hui, avec nos technologies d'aujourd'hui. Et la première cible, évidemment, c'est ça. Les clients qui sont derrière, ce sont des commuters qui vont rouler suffisamment pour pouvoir payer la dépréciation de leur batterie et qui vont y trouver un avantage économique que je vais maintenant essayer de décrire. Alors ces clients-là, leur voiture, c'est toujours un instrument de liberté. Ils veulent, même s'ils ne le font jamais, ils veulent pouvoir avoir un peu plus de liberté. Alors on ramène les différentes solutions. On charge à la maison de 4 à 8 heures. En charge rapide, on descendra sans doute à 30 minutes, mais c'est une infrastructure qui coûte un peu cher. Ceci dit, on a déjà déposé un très joli brevet pour que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Encore une fois, il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent et à la fin, ils peuvent avoir des idées. La station Quick Drop, ça change en 3 minutes. Et on met systématiquement sur toutes nos voitures électriques des navigations intelligentes qui permettent de dire « oui, j'arriverai à destination » en reconnaissant la destination, bref, avec un petit peu d'intelligence ou en la déclarant, et en rassurant ou au contraire en disant de telle sorte que ce souci de l'autonomie disparaisse petit à petit. Et là, on est relativement confiant qu'on est capable de le faire. Mais là encore, l'usage va changer, la voiture, elle aussi, doit changer. Le business model. Business model, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. Tant qu'on n'a pas compris ça, je pense qu'on ne peut pas comprendre qu'on est dans un nouveau business model. C'est qu'on va vendre la voiture nue, entre guillemets, en face d'une vraie voiture, et on va vendre, louer plus exactement la batterie, qui est l'équivalent du carburant. Alors ça peut choquer un esprit rationnel, matérialiste, un ingénieur, etc., qu'on compare une batterie à du carburant, mais c'est pourtant la vérité. Cette batterie, elle va être dépréciée sur 10 ans, 15 ans, et en fait, elle va être traversée par un petit peu d'électricité qui en coût coûte peu par rapport au coût de la batterie, ce qui fait que le coût essentiel qu'on a là, c'est la dépréciation de la batterie et pas l'électricité. Et donc la dépréciation de la batterie est l'équivalent du pétrole. À une grande différence près, c'est qu'une batterie est recyclable et on ne sait pas recycler le CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère. Le business model, quelles vont être les interfaces pour le client? Donc comme je le disais, soit Renault par exemple loue la batterie, loue la voiture et le client achète son électricité par exemple à EDF, dans ce cas-là, il va probablement recharger uniquement chez lui et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye la prise, par exemple le client avec Renault, avec les subsides du gouvernement ou le client plus Renault plus EDF, on trouvera un moyen de s'arranger. Mais nous pensons que le vrai modèle, il est là. Le vrai modèle est là. Oui, parce qu'on n'est évidemment pas forcément d'accord avec les 750 euros donnés tout à l'heure, mais nous, on est habitué à faire de la très, très grande série. Et donc, travailler pour réduire le coût de quelque chose qu'on fait en très grande série nous amène à penser que ce sera beaucoup moins que 750 euros, mais ça reste néanmoins une dépense que quelqu'un devra bien porter. Alors, l'autre solution, c'est un opérateur. Lui, il va vendre l'électricité, va louer la batterie, va facturer l'ensemble. C'est donc l'équivalent d'un service de mobilité. Et il va gérer la batterie dans le cas où il y a du quick drop, puisque dans le cas où on a un quick drop, hein, je rappelle, un quick drop, en 3 minutes, on change de batterie, on repart avec une autre. Le lien bijectif entre la batterie et la voiture est cassé. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui possède la batterie à ce moment-là, puisqu'elle va se déprécier, et ça ne peut être que l'opérateur. Et l'opérateur, il peut faire à ce moment-là beaucoup d'autres choses. J'y reviendrai tout à l'heure. Par exemple, il peut vendre de l'électricité dans la journée à partir de la voiture qui est stationnée dans un parking. Il peut la vendre à l'heure de pointe à EDF qui peut-être la paiera un peu plus cher qu'au milieu de la nuit. La différence entre les deux, eh ben, c'est du revenu sur la batterie. Évidemment, on voit là le système, il a changé. La voiture devient vendeuse d'électricité dans la journée, stockeuse d'électricité entre la nuit et la journée. Mais c'est ça un business model qui évolue, c'est ça un système qui est différent. Et c'est effectivement en prenant tout ça en compte qu'à la fin, on arrive à dire que ça peut marcher économiquement. Alors, du point de vue du client, ça va donner ça. Certes, au début, c'est pendant 4-5 ans, nous pensons à peu près, il faut une aide du gouvernement qui, je rappelle, correspond à un bénéfice socialisé. La baisse de la facture pétrolière, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la facture pétrolière de la France, c'est égal au déficit de la balance du commerce extérieur de la France, hein, 50 et quelques milliards d'euros exactement en 2008. Il y a donc un certain intérêt pour le pays à faire ça. Et puis, il y a la réduction des émissions CO2. Et là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. C'est quelque chose qui doit être socialisé. Ça peut arriver par des taxes mondiales, etc. Je sais que le brainstorming n'est pas fini là-dessus, mais ça ne peut pas venir directement de l'économie marchande toute seule. On est tous convaincus de ça. Ce système peut évoluer dès le départ. On s'en servira aussi probablement un peu pour diminuer le loyer de la batterie. Ça, c'est des réglages qui vont être faits entre l'opérateur et le constructeur. La batterie, le forfait, aujourd'hui, on dit au démarrage, ce sera autour de 100 euros par mois. Et si je compte l'électricité, ça fera 110, 115 euros par mois. Ça va être fortement, évidemment, dépendant du coût d'achat. Je reviens dessus. On pense qu'il va baisser. Ça va être venir aussi du pourcentage du bonus donné par un grand nombre de gouvernements maintenant. Ça va énormément dépendre du nombre de cycles de recharge possible de la batterie. Et je dirais que le paramètre le plus essentiel aujourd'hui, c'est celui-là. Donc ne vous étonnez pas si là, il y a aussi quelques milliers d'ingénieurs qui sont en train de travailler sur la durabilité des batteries lithium-ion. Ça va venir de la valeur résiduelle, c'était ce qui était dit tout à l'heure, si elle est très durable, elle a une valeur à la revente dans les maisons solaires, dans n'importe quoi, qui a besoin de stocker de l'énergie, puisque ça, il n'y a pas de solution technique aujourd'hui pour stocker de l'énergie électrique. Et enfin, là encore, l'opérateur devient important. Si on revend l'électricité à un moment, aux heures de pointe, au réseau, c'est clair que là, on redonne encore de la valeur à la batterie qui se déduit du coût quand le client va utiliser, lui, la partie qui lui revient à lui pour faire rouler la voiture. Progrès de la technologie des batteries, je passe très vite, hein. Mais le lithium-ion, comme je disais, ça a pas mal progressé et ça progresse encore beaucoup. Ce que je veux surtout vous montrer, c'est ça. Voilà les acteurs qui sont en ce moment en train d'améliorer les batteries lithium-ion dans le monde. La bataille est lancée, c'est une bataille mondiale et les joueurs sont plutôt des sumo, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois de très gros moyens en ingénieurs, en moyens financiers. Ensuite, vous avez juste de l'autre côté du détroit de la mer du Japon, les Coréens, Samsung, LG Chemical, SK Energy. SK Energy, c'est intéressant, ils s'y sont mis il y a un an et demi. Ils faisaient du coating, hein, c'est-à-dire mettre des matériaux sur des films depuis très longtemps. Ils font 40% de la production d'électricité de la Corée. Ils font 50 et quelques pourcents des télécommunications de la Corée. Ils font au moins un tiers de la production de pétrole de la Corée. Et ils font enfin de l'industrie chimique et ils savent faire du coating, ce qui dans une batterie est essentiel, c'est remettre des produits sur des films et les faire sécher. Et ils ont décidé de vendre un de leurs business les plus profitables pour financer leur entrée dans le business de la batterie. Ils sont par ailleurs les maîtres d'œuvre d'une opération faite par le gouvernement coréen sur le smart grid. On revient au même sujet et donc je pense qu'ils vont être dans très peu de temps un très grand joueur de ce nouveau business model que manifestement ils ont complètement compris. Un autre joueur très intéressant, BYD, le chinois, dans lequel Warren Buffett a investi 1 milliard de dollars il y a 2 ans et demi et le milliard de dollars vaut déjà 3 ou 4 je crois dans la capitalisation chinoise en ce moment. 1500 ingénieurs seulement dédiés au développement des batteries lithium-ion de stockage d'énergie pour l'automobile et les vélos. Un Allemand, 2 Français, on rajoute en ce moment AESC, c'est-à-dire Renault-Nissan NEC avec le CEA, et puis 3 Américains, Johnson Control en fait c'est Saft, avec surtout 1, 2, 3 sorties du MIT. Donc ces joueurs-là ne vont pas laisser la technologie évoluer à 1% par an. Hein. Le rôle des États, ça c'est ce qui se passe en Israël. 900 points de charge qui sont installés. Le centre d'essai ouvre la semaine prochaine avec des voitures prototypes. Ils ont déjà des précommandes pour 47 000 voitures et ils nous ont passé commande de 115 000 voitures sur 6 ans. Ça c'est les aides fiscales qui sont décidées. Aux États-Unis, donc 7 500 $ par voiture, en France 5 000 €, l'Espagne est en train de discuter de 6 000 €, l'Allemagne discute de 5 000 €, je crois que c'est 6 000 pounds en Angleterre, en Israël je viens d'en parler, au Danemark on vient d'en parler aussi, le Japon en discute et il y a des discussions en Inde sur le même sujet. Voilà, le marché, je voulais parler rapidement d'une étude du CIRED qui est Paritech, École des Ponts, qui a fait une étude sur finalement quel était l'intérêt pour un État, en regardant le PIB, l'activité générée dans le pays, etc., de lancer maintenant un véhicule électrique. Et il trouve une valeur actualisée nette dans le PIB d'un véhicule électrique produit en début de période de 7 000 à 13 000 euros selon les hypothèses qu'ils prennent sur le prix du pétrole et la valeur de la tonne de CO2 dans l'automobile. Voilà, simplement pour dire que il y a des gens qui travaillent déjà sur ce sujet-là et je vous conseille de lire son étude que je ne peux pas détailler plus que ça. Le marché, nous disons, avec ce que nous voyons un peu partout dans le monde, que le marché peut monter à 10% du marché mondial en 2020, c'est-à-dire de l'ordre de 6 millions de voitures. Ça peut aller à des taux plus élevés localement. Par exemple, dans 2 types de pays, on va dire des pays fortement nucléarisés et qui donnent une forte valeur au CO2. C'est le cas de la France et du Japon. Ça donne bien pour une alliance franco-japonaise, et des pays après comme la Chine et l'Inde qui peuvent là trouver une solution à leur difficulté à s'alimenter en pétrole aujourd'hui. C'est un deuxième intérêt pour eux, c'est qu'ils peuvent faire un shortcut technologique au lieu de développer des motorisations diesel-essence de plus en plus sophistiquées et complexes, ils font un shortcut vers le véhicule électrique. Une voiture électrique simple, c'est plus facile à faire qu'une voiture thermique simple. Ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, ce qui peut faire varier ce marché, c'est le prix du pétrole, on a parlé. L'évolution des réglementations des incitations, évidemment, et du coût du CO2, l'évolution du coût des batteries et de leur durabilité, le déploiement de l'infrastructure, évidemment, et en particulier le déploiement du smart grid qui peut être un accélérateur, et enfin, dernier point, le changement des habitudes des automobilistes, pour l'instant très peu exploré. Les deux points les plus importants sur lesquels je voulais insister, c'est les taxis. Un taxi, ça fait 80 000 km par an. Et une batterie, c'est un coût fixe qu'on arrive en France à amortir avec entre 10 000 et 15 000 km par an. Donc le business du véhicule électrique pour un taxi, c'est un business qui peut être très prometteur. Mais là, évidemment, il faut des stations quick drop, ce sur quoi nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs, dont la SNCF et Better Place, dans le cas de la France et de la région parisienne en particulier. Le deuxième point que je soulignais, c'est l'autopartage. Pourquoi ? L'autopartage, c'est un business model qui se développe doucement avec les jeunes aux États-Unis, en Allemagne du Sud, en Suisse, qui commence à s'installer très très modestement en France et qui est fondé sur le partage entre plusieurs clients d'un coût fixe, le parking, la voiture et sa maintenance, et on paye le coût variable. Quand on passe au véhicule électrique, le coût fixe augmente un peu, le coût variable s'écroule complètement. Le business model devient plus intéressant. Et nous pensons que ça va être un accélérateur de l'autopartage qui était déjà en train de se développer dans un certain nombre de grands marchés matures. Donc c'est juste pour dire ces deux éléments. Nous pensons que les pratiques de l'usage automobile vont profondément changer. Mais là, on n'est pas assez malin pour savoir dans quelle direction ça va aller. Donc on se contente pour l'instant de faire des voitures plus quelques expériences comme celle-là. Enfin, l'offre de Renault, donc très vite, ça c'est pour montrer que la voiture elle-même peut changer. Il y a une version qui sera plus populaire, qui est la version cargo, qui peut porter une centaine de kilos à l'arrière avec un conducteur et tous les airbags, la sécurité qui sont nécessaires. Ça c'est une voiture qui sera en très grande série. On est capable, si c'est nécessaire, de monter à 300 000 par an dans l'usine de Flins. Ça c'est l'affluence, c'est la voiture avec laquelle on va démarrer, qui est une grande berline qui pourrait être un taxi parisien et qui sera une voiture en Israël et au Danemark. Ça c'est les prototypes d'aujourd'hui, la voiture est plus courte et moins habitable mais c'est juste un prototype. Et puis ça c'est le Kangoo qui sera fabriqué à Maubeuge, disponible mi-2011 pour faire des livraisons propres en CO2 en France. Voilà ce que je voulais vous présenter sur Renault. En conclusion, si je résume... Premièrement, donc, ce n'est pas une panacée universelle, on est bien d'accord, ça va démarrer par des deuxièmes voitures et des commuteurs. Une voiture électrique, ça ne remplace pas une voiture thermique, c'est un système nouveau qui se met en place avec en particulier des voitures, une relation au réseau, une nécessaire évolution de l'alimentation électrique. C'est une rupture en CO2 et c'est une rupture en consommation de pétrole pour un pays et c'est pour ça que les États s'y intéressent. Le business model est un business model complètement différent, à commencer par Renault, et nous obligera à travailler complètement ensemble avec des opérateurs potentiels comme EDF. C'est un schéma qui a été rendu possible parce qu'il y a une rupture technologique sur le lithium-ion et la grande machine industrielle mondiale a optimisé, s'est mise en marche avec une quinzaine de joueurs qui sont des joueurs majeurs pour améliorer cette technologie. Faites leur confiance. Il faudrait qu'il y en ait quelques-uns en France aussi. Enfin, ce point important, 6 millions de voitures en 2020, pour nous, ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas de l'imagination, c'est quelque chose qui nous paraît complètement possible. Enfin, ce que je voulais dire, c'est quand Renault avance dans cette direction-là, c'est fidèle à sa tradition d'innovation, c'est aussi parce que notre stratégie, face à ces grands défis pétrole et défis écologiques, c'est la mobilité durable pour tous. Pour tous et durable. Merci.
Merci.